Bonjour à tous. Nous voulons dire merci à Dieu ces jours du privilège qu'il nous accorde de nous tenir encore une fois devant vous pour conduire la réflexion sur sa parole. Mais avant de commencer, nous allons prier. Père éternel, notre Dieu, et disons merci pour cette occasion que tu nous accordes afin de pouvoir écouter ta parole. Cette parole qui est ta puissance pour transformer nos vies. Seigneur, accepte que cette parole qui va sortir de nous vienne de toi et que ça puisse réaliser ta volonté des transformations dans nos vies. Nous te les prions dans Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire dans 4 différents livres de la Bible, notamment dans Lévitique, chapitre 11, versets 44 à 45. Lévitique 11, 44 à 45. Le deuxième livre, c'est Deutéronome 30, 11 à 14 et 19 à 20, Deutéronome 30, 11 à 14 et 19 à 20. Troisième, c'est Matthieu 23, 27 à 28. Matthieu 23, 27 à 28. Et enfin, Hébreux chapitre 12, verset 14. Nous allons lire, c'est moi qui vais conduire la lecture de ces différents textes. Dans Lévitique 11, 44 à 45, la Bible nous dit ceci. « Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. 45. Car je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. Deutéronome 30, 11 à 14. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-delà de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous les fera entendre afin que nous les mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous les fera entendre afin que nous les mettions en pratique. 14. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Sautons au verset 19 et 20. 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans les pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Matthieu 23, 27 à 28. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements des morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'injustice. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra qui ? Ne verra Dieu. C'est la parole que nous allons étudier aujourd'hui. La lecture a été longue, c'est vrai, mais notre réflexion va s'articuler sur le thème intitulé « Être trouvé fidèle et intègre devant Dieu en action ». Être trouvé fidèle et intègre devant Dieu en action. Et cette articulation a été puisée du thème annuel de la paroisse en 2025 qui dit de la parole en action, rester fidèle et intègre à Dieu. Ça, c'est le thème général, mais aujourd'hui spécifiquement, notre réflexion va être focalisée sur les sujets qui traitent de la sainteté de Dieu et ses exigences dans l'alliance entre l'homme et son Dieu. Dieu a une qualité spécifique, c'est la sainteté. C'est dans sa nature. Il est saint, trois fois saint, pour mettre un accent particulier sur sa sainteté et sur cette nature de sainteté. Alors, cette sainteté a des exigences qu'elle impose dans la vie de quelqu'un qui a conclu une alliance avec lui. Et c'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui. En fait, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le troisième dimanche de Pâques. Et le troisième dimanche de Pâques fait partie d'une période de 50 jours qu'on appelle temps pascal, un moment durant lequel ceux-là qui ont cru au Seigneur doivent passer du temps dans la joie et de la célébration de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le temps pascal commence le dimanche de Pâques. Je disais que le temps de la Pâque, le temps pascal, commence le dimanche où nous célébrons la Pâque. Pour 2025, c'était le 20 avril. Alors, à partir de ce moment-là, de ces jours-là, il faut compter 50 jours jusqu'à la Pentecôte que nous allons célébrer le 8 juin 2025. Et là, nous aurons totalisé les 50 jours du temps de la Pâque. Et c'est dans cette dynamique que nous voulons placer notre réflexion et parler de la sainteté de Dieu et ses exigences dans l'alliance entre l'homme et son Dieu. Parce que nous savons que c'est à partir de la Pâque que l'Église qui a été acquise à un grand prix, le sang de Jésus-Christ, a conclu une alliance avec Dieu. Et cette alliance est passée par le sang de Jésus qui a été versé à la croix. Et c'est ce sang qui nous donne l'accès à Dieu. Et c'est de cette alliance qu'il s'agira dans le déroulement de notre méditation. Alors, pour comprendre notre sujet du jour, nous avons besoin de définir deux mots clés, deux concepts clés, deux expressions clés. Primo, nous allons réfléchir sur la définition de la sainteté. Et en deuxième lieu, nous allons réfléchir sur la définition de l'alliance. Et c'est de cette manière-là que nous allons comprendre les leçons qui se dégagent de ces sujets autour duquel nous avons construit notre réflexion de ces jours. Il s'agira de répondre à trois questions Et ces trois questions nous aideront à comprendre ce que Dieu veut pour ce troisième dimanche de Pâques dans la vie de chacun d'entre nous. En fait, la sainteté vient du terme saint qui traduit les mots hébreux kadosh et qui signifie séparé. Séparé, c'est un participe passé. Mis à part. Et ici, on est séparé et on est mis à part par rapport au péché. C'est ça la compréhension qu'il faut avoir. Lorsque c'est appliqué à Dieu, il se réfère à la nature fondamentale de Dieu. Et il signifie que Dieu se distingue de toutes les autres créatures dans sa nature, qui est caractérisée par la perfection. Une perfection et une pureté absolue qui sont incomparables, qui sont sans limite et qui font que on ne puisse trouver en Dieu aucun péché. Dieu est saint parce que il est d'une perfection et d'une pureté absolue qu'il faut qu'il n'y a personne qui peut l'accuser des péchés. Alors, lorsque le terme sainteté est appliqué à l'homme, il se réfère à la nature de l'homme qui, d'une manière pratique, mène une vie qui se met toujours dans la dynamique de se mettre à l'écart de toute souillure à cause de l'alliance qu'il a conclue avec son Seigneur. Donc, il y a des personnes qui aiment plaire à Dieu et cela fait qu'ils s'engagent dans une dynamique, dans un processus de toujours, à tout lieu et à tout moment, se séparer de tout ce qu'ils peuvent constater être une souillure. Alors, des personnes comme cela, même si elles sont rares, mais elles existent quand même, parce que la Bible va nous démontrer que ce n'est pas au-delà de tes forces, ce n'est pas au-delà de ta portée, c'est à ta portée et tu es capable de vivre la sainteté. Alors, le deuxième concept, c'est l'alliance. Ce mot alliance vient, c'est la traduction du terme hébreu berit, qui signifie pacte. C'est un pacte, c'est un contrat, c'est un accord formel et solennel entre deux parties. Dans les cas d'espèce ici, la première partie, c'est Dieu qui initie l'alliance et nous, hommes, nous sommes la deuxième partie. Alors, ce genre de pacte est celui qui s'établit parmi deux parties qui s'engagent mutuellement à vivre en toute fidélité dans une relation où ils tiendront chacun sa promesse vis-à-vis de l'autre partie, il assumera chacune de ses parties ses responsabilités et il s'acquittera de ses obligations. C'est-à-dire, dans une alliance, il y a des promesses qui se présentent comme des engagements. Dans une alliance, il y a des responsabilités qu'on accepte d'assumer. Il y a aussi des obligations dont on doit s'acquitter. Parce que, en fait, lorsque quelqu'un qui est entré dans une alliance, il réussit à faire plaisir, à obéir, à respecter ses engagements, à assumer ses responsabilités et à s'acquitter de ses obligations, alors il y a des sanctions positives qu'on appelle des récompenses. Mais lorsque c'est le contraire, alors les sanctions sont négatives et on parlera ici de punition. Nous sommes devant Dieu dans une alliance, nous sommes avec Dieu dans une alliance et alors il nous est demandé de prendre cette alliance au sérieux parce qu'à la fin, il y a des sanctions. Soit positive, si vous avez obéi à sa voix et vous avez marché en toute fidélité dans l'alliance que vous avez conclue avec le Seigneur, Ou alors, vous avez failli à vos engagements et alors les sanctions seront négatives pour vous. Lorsque ça s'applique à l'homme, c'est un pacte qui est basé sur un engagement sacré. Rappelez-vous que ce qui est sacré est inviolable parce que ça engage Dieu dans la relation qu'il a et qu'il entretient avec toi et avec moi. En fait, ici, il faut savoir que ça nous demande d'être obéissants, d'être fidèles à Dieu. C'est à ça que nous nous engageons parce que Dieu aussi s'est déjà engagé qu'il restera fidèle à ses promesses envers nous. Ici, l'alliance se distingue de ce qui s'appelle alliance dans la politique. Parce qu'en fait, en politique, il y a un principe qui dit les alliances se font et se défont. Les politiciens qui sont ici le savent. C'est pour cela que vous voyez un tel politicien qui s'engage aujourd'hui à quelque chose, il signe même des accords, mais le lendemain, il défait, il nie ce qu'il a signé comme accord, comme pacte. Devant Dieu, ce n'est pas comme ça. Si c'est comme ça que nous avons appris les alliances, nous devons monter des niveaux parce que devant Dieu, ça engage notre vie. La Bible a dit dans la lecture, c'est de cela que dépend notre vie. En fait, comme on n'est pas sérieux, on ne prend pas au sérieux les alliances en politique, c'est à cause de cela qu'un constat amer a été fait par un politicien qui a conclu que toute politique finit à la tombe. On ne va pas s'étonner si on voit un politicien briller aujourd'hui et demain, il meurt. Si vous cherchez les causes de sa mort, ce ne sont pas des causes naturelles. Ce sont des causes... Des causes comment? En tout cas, il ne meurt pas d'une mort naturelle où on va dire il est tombé malade et il est mort. Soit il est tué, soit il est tombé malade et il est mort, mais la maladie, l'origine, ce n'est pas une origine naturelle. Je crois que vous comprenez. Alors, passons aux leçons pour les quelques minutes qui nous restent. Alors, les leçons que nous devons apprendre dans cette méditation viennent des réponses que nous allons donner à trois questions. Et de ces trois questions, nous allons tirer trois leçons. La première leçon, la première question se pose par rapport au verset 44 et 45 de Lévitique 11, où la Bible nous parle de ce que Dieu nous présente en disant « Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Car, 45, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Déjà, le verset 45 ici nous énonce l'objectif pour lequel Dieu a accepté de tirer le peuple d'Israël de l'Égypte pour les amener à Canaan. La Bible dit ici que le but, l'objectif est double. D'abord, il fallait qu'il les fasse monter de l'Égypte pour qu'il soit leur Dieu. Parce que Dieu n'était pas le Dieu des Israélites. Ils allaient à Canaan et ils adoraient les dieux de Canaan. En fait, ils adaptaient leur religion à des circonstances et au milieu. Ils arrivent telle part, ils adhèrent à ces dieux qui se trouvent là-bas. Alors qu'ils savaient bien que Dieu réclame qu'il soit le seul à être adoré par eux et à être servi par eux. Amen. Amen. Alors donc, Dieu voulait couper court à cette versabilité cette situation de ne pas être stable dans la foi. Aujourd'hui, vous êtes sur tel Dieu, demain, vous êtes sur un autre, et le lendemain, sur un autre, ça ne marche pas. Même aussi aujourd'hui, si nous voyons quelqu'un quitter cette paroisse, il va dans une autre paroisse. Quelques jours après, il va dans une autre. Quelques jours après, il va dans une autre. Il peut revenir ici, on va le regarder avec un œil au coin. Pour dire, bon, nous allons voir encore comment il va se comporter après être revenu des 3 ou 4 différentes paroisses qu'il a parcourues. Alors, l'objectif est double ici. Que Israël est comme Dieu, les dieux qui s'appellent l'Éternel des armées. La deuxième partie de l'objectif, c'était pour qu'ils deviennent saints, comme Dieu est aussi lui-même saint. Alors vous voyez que c'est une exigence que la sainteté de Dieu nous impose, de devenir saints comme Dieu est saint, et d'avoir le seul Dieu, l'Éternel des armées, comme notre seul et unique Dieu. Il est le seul que nous pouvons adorer, il est aussi le seul que nous pouvons servir. Si vous allez en dehors de ça, vous serez en train de vous éloigner de ce que Dieu vous demande de faire. Alors, ça c'était la première chose que Dieu impose aux enfants d'Israël à connaître. L'objectif, Dieu veut devenir notre Dieu, le seul à être adoré et être servi. Deuxième chose, Dieu veut que nous puissions être saints comme lui-même est saint. Et il exige que nous ne puissions pas nous corrompre. En fait, Dieu semble nous dire ici que la corruption ne s'amène pas. C'est quelqu'un qui va dans une démarche quelconque pour aller chercher à se corrompre. Vous ne vous rendrez pas impur. L'impureté ne va pas s'amener dans votre vie. L'impureté va venir dans votre vie parce que vous êtes allé la chercher. Amen. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. La deuxième chose, c'est le verset 44 maintenant. Dieu appelle à un effort à fournir délibérément, consciencieusement, pour s'engager dans un processus de sanctification. En fait, ici, c'est le verset 44 qui dit « Car je suis l'Éternel, votre Dieu, vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Il demande que nous ne puissions pas nous corrompre, nous rendre impurs, mais il nous demande de nous sanctifier. En fait, comprenez ici que la sanctification est le processus dans lequel nous entrons lorsque nous désirons du jour au jour nous séparer de l'impureté. Vous découvrez aujourd'hui que ceci est une impureté devant le Seigneur et vous décidez de vous engager à vous débarrasser, à vous séparer, à vous éloigner de cela. C'est de cela qu'il est question ici. Alors, c'est ce qui est évoqué dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Il dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Ici, quand vous observez le mot « rechercher », c'est un verbe qui est conjugué ici à l'impératif et qui signifie que c'est un ordre, c'est un commandement. Et c'est Dieu qui donne cet ordre. Personne ne peut s'y soustraire. Il nous demande de rechercher des choses. D'abord, la paix. Il met une virgule et il ajoute. Et la sanctification, sans comment? Sans laquelle? Pourquoi il n'a pas dit sans lesquelles? Parce que ici, la sanctification prime sur la paix. Parce que tout simplement, on sait que celui qui cherche la sanctification vit en paix avec les autres. Parce que quand il sait que les conflits avec les voisins sont un problème, sont une impureté, alors il se dégage, il se sépare, il s'éloigne de plus en plus de cela. Et c'est le Seigneur qui nous recommande, qui nous commande. Parce qu'une recommandation n'est pas un commandement. Une recommandation, c'est une proposition. Mais ici, c'est une, si on pouvait dire, une commandation. au lieu de dire une recommandation, je ne sais pas si les francophones qui sont là vont accepter que ça rentre dans les dictionnaires aujourd'hui. C'est un commandement, c'est un ordre auquel il n'y a personne qui a le droit de se soustraire. Alors la question qu'il faut se poser ici, c'est quoi? C'est que, est-ce que j'ai déjà fait de Dieu le seul Dieu qui est au centre de mon adoration et de mes services? Est-ce que je me pose la question de savoir ce que je fais ici, ce que je pense ici, est-ce que ça sert à la gloire de Dieu? Le seul vrai Dieu qui me demande de l'adorer et de l'adorer lui seul. Amen. Amen. La deuxième question qu'il faut se poser à ce niveau, c'est de dire, est-ce que Dieu, quand il me voit, il me trouve en train de fournir l'effort de me décaler, de me distinguer, de me séparer progressivement des souillures de ce monde? Est-ce que cet effort est là? Parce qu'il s'agit ici d'une dynamique de transformation et de changement perpétuel. C'est un processus de transformation perpétuel. Hier, j'étais A, mais aujourd'hui, je suis B, demain, je serai C. Et vous savez que la lettre A et la lettre B et la lettre C ne sont pas la même chose. Amen. Ne sont pas la même chose parce que si je suis A aujourd'hui, hier j'ai été A et aujourd'hui je suis A et demain je suis A, alors ça veut dire que je marche sur place, je n'avance pas. Or, ce processus demande un effort qui me fait avancer. Et lorsque j'avance, il y a des personnes qui vivent autour de moi qui constatent que je suis en train de changer, que je suis en train d'être transformé par le Seigneur. Amen. La deuxième question, elle se pose dans les versets de Deutéronome, chapitre 30, versets 11 à 14 et 19 à 20. Ici, la question est de savoir, est-ce que l'homme a la capacité de vivre la sanctification? Est-ce que l'homme a la capacité de vivre la sainteté imposée, exigée par Dieu dans sa relation, dans son alliance, dans l'alliance qu'il a avec Dieu? La parole de Dieu ici dit oui, l'homme a la capacité. Parce que le verset 30 et le verset 11 du chapitre 30 de Deutéronome dit ceci. Ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces. Il continue, il dit, il n'est pas loin dans le ciel, il n'est pas loin de l'autre côté de la mer. Ça c'est le verset 12 et 13. 14 dit, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu sois capable de mettre ces commandements en pratique. Ce que nous devons noter là, c'est que si Dieu savait qu'il est impossible pour l'homme de vivre la sanctification et de devenir de plus en plus saint au fur et à mesure qu'il avance dans cette dynamique de sanctification, s'il savait que c'est impossible, il ne pouvait pas nous demander de nous y engager. Amen. Amen. C'est parce qu'il sait que c'est possible qu'il dit, allez-y, soyez saints comme je suis saint. Il est vrai que la sainteté de Dieu qui est absolue est différente de la sainteté dans laquelle moi je m'engage. Parce que Dieu est parfait depuis toujours et éternellement il restera parfait. Mais moi je ne suis pas parfait. Je suis imparfait, mais je suis perfectible. C'est-à-dire, je peux prendre conscience que quand je suis éclairé par la sainteté de Dieu, je trouve que ma sainteté devient comme des habits déchirés. Ça, c'est la Bible qui le dit. Alors, je me dis, alors je vais changer. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir changer. Alors, Dieu me montre les souillures desquelles je dois me débarrasser. Alors, aujourd'hui, il me montre telle souillure. Je m'engage en âme et conscience, avec ma volonté, j'ai dit, je m'engage à quitter, à me débarrasser de ça. Demain, il me montre autre chose, je m'engage à me débarrasser d'elle. C'est-à-dire,
il n'est pas normal qu'un chrétien on puisse les reprocher pour une chose plusieurs fois, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Vous avez été A l'année passée, vous êtes A aujourd'hui, l'année prochaine vous restez A, c'est anormal. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions démontrer que nous avons la capacité, parce qu'il nous a donné cette capacité. Et il dit que cette capacité n'est pas au-delà de la mer, n'est pas au ciel, pour penser aux anges. Cette capacité est avec moi-même. Il dit dans mon cœur et dans ma bouche. Mon cœur, c'est une décision ferme que je prends de me débarrasser de quelque chose. Ma bouche, c'est le témoignage que je donne dans mon engagement. Je dis, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à ne plus être ceci. Vous vous êtes engagé combien de fois et vous êtes resté les mêmes. C'est anormal. Amen. Et vous ne voulez pas dire amen. Hein? Mais c'est ça la vérité. Et c'est amen parce que c'est ainsi soit-il. Alors, Deutéronome 30, 19 à 20 dit que c'est un choix. C'est un choix que tu dois utiliser, que tu dois porter. C'est un choix qui est placé devant toi. Parce que la Bible dit ceci. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Quand il dit le ciel, c'est-à-dire que lorsque vous êtes devant Dieu dans votre alliance, les anges sont témoins parce qu'ils sont au ciel, mais la terre, vous êtes avec qui sur la terre? Vous êtes avec qui? Avec les hommes. Et les hommes les plus proches de vous, c'est votre famille, c'est vos voisins, ainsi de suite. Ils sont témoins. Si vous dites « je change », ce sont eux qui vont savoir que vous êtes en train de changer. Si vous dites « je change » et vous ne changez pas, ils sont témoins. Ils sont témoins du changement négatif que vous manifestez dans votre vie. Ils sont témoins de la marche sur place que vous réalisez dans votre vie. Ils sont témoins de l'évolution qui s'observe dans votre vie, dans votre engagement, dans la trajectoire, dans le processus de la sanctification. Alors donc, sachez que c'est un choix que vous devez faire et c'est votre volonté qui doit être mobilisée pour faire ce choix-là. C'est un engagement. Vous dites, je m'engage et ça vient. Alors, la troisième question. Mais avant de poser la troisième question, je voudrais que vous puissiez vous rappeler. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie devant les témoins du ciel, les témoins de la terre? Il y a aussi d'autres témoins que nous n'avons pas cités. Parce que Dieu est témoin. Il est le premier témoin des avancées que vous réalisez dans votre vie. Mais aussi Satan est témoin. J'ai entendu quelqu'un dire un jour, bon, attends, parce qu'il est témoin. Il y a des choses qui arrivent dans votre vie et le diable lui-même s'étonne. Il dit, ah, j'ai un ami qui a rencontré un fou à Tipesse un jour et ce fou-là, il tabassait les gens. Il frappait les gens les jours du marché. Alors cet ami-là a dit, mais comment? Celui-ci, il est en train de faire le désordre ici. Et il le fait chaque jour du marché. Comment arriverons-nous à changer la situation? Il a pris un fouet. Il s'est avancé vers les fous. Et le fou s'est avancé aussi pour l'intimider. Alors il a frappé les fous de manière réglementaire. Il a bien frappé. Et le fou a dit, cette fois-ci, la folie de celui-ci dépasse la mienne. C'est-à-dire, il y a des témoins qui nous entourent, qui sont témoins aujourd'hui et qui témoigneront au dernier jour sur ma vie et sur ta vie. Et si nous ne faisons pas attention, les témoignages nous mèneront pahali pabaya. La troisième question. Quelles sont les exigences de la sainteté de Dieu qui s'impose à l'homme dans son alliance, dans l'alliance qu'il a faite avec Dieu. Nous venons de parler d'autres alliances, n'est-ce pas? D'autres exigences plutôt. Et ici, nous voulons terminer avec certaines de ces exigences-là. Mais avant ça, je vais vous dire que une alliance pour être une, pour être appelée une alliance, a cinq éléments qui doivent apparaître lorsque l'alliance est en train de se faire. Une alliance qui ne peut plus jamais se défaire. Et c'est une alliance avec Dieu. Alors, le premier élément, c'est que du point de vue de sa nature, il y a la sacralité de l'alliance. En fait, si votre alliance n'est pas fondée sur la sacralité, ce qui dit que ça impose un respect inconditionnel basé sur le principe de l'inviolabilité, parce que c'est une alliance que vous faites devant Dieu. Si vous savez qui est Dieu et que vous prenez des engagements devant Dieu, cet engagement est sacré et vous n'avez pas le droit de revenir sur cet engagement demain ou après-demain pour dire « si quoi na joie ». En fait, ceux qui se marient, ils s'engagent aussi. Mais ils sont nombreux, ceux-là qui arrivent à un certain moment dans le parcours, ils disent « ninge kwa kana joie singe waka ouy ?»« ninge kwa na joie singe ole waka na ouy ?» Et ils prennent des décisions contraires. Ici, c'est un engagement sacré devant Dieu, cette alliance-là, et ça demande un respect absolu et qui est basé sur le principe de l'inviolabilité. L'alliance est sacrée. Ça doit se faire voir dans votre engagement devant Dieu. Ça, c'est la première chose. Abraham est passé par là et il a tenu son engagement sacré devant le Seigneur. Deux, du point de vue de sa présentation, l'alliance exige d'avoir un signe physique qui est visible. En fait, avec Abraham, Dieu a dit, il faut que vous soyez circoncis et que vous puissiez circoncire tous les membres de votre famille pour que je puisse les accepter dans mon alliance. Vous allez vous souvenir qu'ici, il s'agit d'une alliance qui est faite par un individu avec son Dieu, mais une alliance qui engage toute la progéniture, toute la famille derrière, soit en bien, soit aussi en quoi? En mal. Si vous réussissez à plaire à Dieu, alors il va vous bénir. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Dieu a dit, je vais te bénir. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai ton nom grand, je te multiplierai et toutes les autres nations seront bénies en toi. Ça, c'est Dieu qui dit. Il s'engage et il promet, je resterai fidèle à toi, à ma parole devant toi. Abraham devait aussi réagir en disant, je promets aussi que je resterai fidèle à toi. Les signes ici, les signes extérieurs, c'était le sang qui doit couler lorsque on fait la circoncision. Ça, c'est le deuxième aspect, le deuxième élément. Le troisième élément, du point de vue de sa présentation, En fait, je venais de parler du deuxième élément plutôt. Du point de vue du contenu de l'alliance. Ça, c'est le troisième élément. L'alliance est fondée sur une promesse et un engagement considéré comme sacré. Je venais de le répéter. Et Abraham a considéré les engagements qu'il a pris devant Dieu comme sacrés. Et il n'a pas dérogé à ça. Troisième élément, ce sont les résultats. C'est lui qui s'est engagé devant Dieu, son engagement le lie. C'est pourquoi l'alliance est un lien. Vous êtes liés par cet engagement-là. C'est-à-dire, vous n'avez plus la liberté de faire ce que vous voulez, mais vous avez l'obligation de faire ce que celui à qui vous êtes lié dans l'alliance veut. Amen. Amen. Tous ces chrétiens-là qui se sentent libres de faire ce qu'ils veulent,
il arrive dans un nganda, il ne se gêne pas de boire. Il y en a qui boivent ici. Quand je dis boire, vous savez de quoi je parle? Il y en a qui boivent, qui lèvent la main. Mais nous pouvons prier pour vous et vous êtes délivrés, non? Bon, on peut se cacher, vous avez la permission de vous cacher pour l'instant, mais devant Dieu, vous n'êtes pas caché parce qu'il est témoin. On peut quand même être surpris de voir quelqu'un qui cherche une autre femme alors qu'il a une femme. Même s'il n'a pas une femme, est-ce que c'est la raison pour aller chercher les femmes? Tout le monde qui n'est pas passé par ici et qui va chercher les femmes, il est en train de se cacher parce que pour la prostitution et l'adultère, il n'y a pas de témoins. Des témoins capables de témoigner, mais les témoins du ciel sont là. Et même l'endroit que vous utilisez peut servir de témoin si Dieu le veut. Parce qu'il dit, il peut même utiliser les pierres pour glorifier le Seigneur. En tout cas, je ne vais pas citer beaucoup de choses. Vous-même, vous savez ce qui se passe dans votre vie. Qu'est-ce que vous faites en cachette? Et vous savez que ça déplaît à Dieu, mais malgré ça, vous y allez aujourd'hui. Hier, vous avez été dedans, aujourd'hui, vous êtes dedans, demain, vous êtes dedans. L'année passée, c'était la même chose. L'année actuelle. Bon, les Français, c'est comme ça. Cette année ici, c'est comme ça. Non. Nous sommes passés d'avril à mai. Accepte aujourd'hui de décider que mai ne soit pas comme avril, comme mars, comme février, comme l'année passée. Amen. Décide, parce que c'est un engagement, c'est un choix que tu es capable de faire et Dieu est capable de t'aider. En fait, l'exigence par excellence que l'Alliance nous impose, que la sainteté de Dieu nous impose dans notre alliance avec lui, c'est d'accepter d'être transformé par la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu est en nous et c'est celui-là qui nous transforme. Acceptez d'être transformé chaque fois que vous entendez la parole de Dieu qui vous demande de changer, changez. Même si ce n'est pas par la prédication, le Saint-Esprit vous montre quelque chose qui est une suie devant Dieu. Et il vous dit, débarrasse-toi de ça. Accepte. Amen. Amen. Je crois que dans les réveillons de cette année ici, on n'aura pas des gens qui viendront retirer les gens ici pour dire, c'est ma femme, amen. Et il vient, il est ivre. Munipatie bibi yangu sahi, minaenda naye kwanza mimi nilimuoa, munipatie naye. Ulimuoa, tulipatie naye lakini tulitangaza aseme hakuna mwata toka apre never ya magharibi. Sasa wewe unakuya quit, unasema tukupatie. Ukienda kutana na watu kule wanamfanya mbaya wala wanakuharibisha utasema ni makosa ya nani? Donc nous devons changer et c'est notre prière à nous tous. Cinquième, les témoins. Je viens de parler à l'heure à l'âge des témoins. Il n'y a pas d'alliance sans témoins. Et il y a des témoins visibles et des témoins invisibles. Quand vous êtes baptisé ici, nous disons, nous sommes témoins que tu acceptes de mourir. De mourir à quoi? Au péché et de vivre pour la nouvelle vie. Nous sommes des témoins. Nous ne devons pas témoigner plusieurs choses à la fois dans votre vie. Nous devons témoigner une et une seule chose. Mais laissez-moi terminer avec... En fait, dans la Bible, l'alliance avait comme signe le sang. Mais j'ai trouvé quand même quelque chose d'autre qui remplit toutes ces conditions ici et qui est dans une culture des Indiens de l'Amérique. Lorsqu'ils font l'alliance, ces gens-là, ils ne prennent pas... En fait, ici, nous savons que ça, c'est la culture de Dieu qui dit le sang. Le sang doit couler de manière visible. Tantôt, c'était la circoncision. Ensuite, c'était la brebis. Ainsi de suite. Et Jésus est venu et il a versé le sang comme signe visible de notre alliance. Si le sang de Jésus n'a jamais fait quelque chose dans ta vie, c'est aujourd'hui le jour de ta délivrance et de ton salut. Alors, il y a la culture de ces Amérindiens, les Indiens de l'Amérique, les premiers occupants de l'Amérique, qui, eux, lorsqu'ils font alliance, chez nous ici, dans la culture ici, c'est aussi le sang où on dit,
on va se couper sur les doigts, vous aussi vous vous coupez sur les doigts, et moi je prends votre doigt, je cisse, j'avale, et toi tu prends mon doigt, tu cisses, tu avales. Vous connaissez ça? Aujourd'hui ça ne se fait plus souvent, mais dans l'ancien temps, dans notre culture ici, ça se faisait de cette manière-là. Et ces signes-là avaient des témoins. Et ces signes-là avaient un contenu, les engagements à la fidélité stricte. Donc tout ce que je venais de dire là comme élément, les cinq éléments, ça s'est réalisé là. Mais alors, chez nous, c'est comme ça que ça se rapproche un peu à la culture juive où le sang et les signes est l'élément central. Chez eux, c'est différent. Au lieu du sang, ils prennent une pierre et une pierre qu'ils cassent en deux. Si ça se casse à plusieurs parties, alors ça ne va pas servir comme élément d'alliance. Mais si ça se casse en deux, alors on prend les deux éléments, on les rapproche, on dit « ça c'est la pierre qui a été détachée de l'autre ici ». Alors les deux personnes qui prennent alliance, l'un des côtés, il reste avec un élément, une partie. L'autre des côtés, il reste avec une partie. Et c'est une alliance à la fidélité stricte. C'est-à-dire, quand il vit avec cette pierre-là, vous, même si vous n'avez pas les yeux qui voient bien, vous êtes déjà très vieux, on dit alors, amenez aussi la pierre qui a été détachée. On met ensemble. Si ça, if it fits, et qui est néa, monaskia, et qui est néana, alors on va dire, c'est lui. Et on lui fait tout ce qu'on est obligé de faire. Toutes les obligations, on s'acquitte. Toutes les responsabilités, on les assume. Tous les engagements, on les réalise. Même si ce n'est pas celui qui était présent lorsque on avait rompu, on avait cassé la pierre, mais tout le monde qui va venir avec cette pierre-là, il va être reçu et il va bénéficier de toutes les faveurs qui ont été prescrites dans l'engagement qu'on a fait dans les jours de l'Alliance. Ce qui est particulier ici, c'est que chaque pierre était unique, chaque pierre était spéciale. On ne pouvait pas répliquer cette expérience-là. Même si vous avez un sculpteur qui s'est taillé, il ne peut pas refaire la même chose. Pour que ça puisse aller, Koenéana, avec l'autre pierre qui était... Parce que chacun garde sa pierre, sa partie. Et pour témoigner que cette partie, c'est la partie de l'alliance que j'ai fait avec vous, il faut amener les pierres. Il est dit, Wenjo Inamaliza, biche. Alors, ce qui est spécial ici, dans cette culture, c'est que de la même manière, dans cette culture, la vie chrétienne basée sur une alliance est une alliance particulière et unique pour chaque chrétien. Vous ne pouvez pas dupliquer cette alliance, votre alliance, dans l'alliance d'une autre personne. Mais toutes les alliances, dans leur diversité, nous engagent dans la vie de sanctification. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous avez d'unique et de particulier que les autres peuvent constater dans votre vie chrétienne qui ne peut jamais se retrouver chez les autres? Si vous en avez, que le Seigneur vous bénisse. Si vous n'en avez pas, que le Seigneur vous fasse quoi? Vous fasse quoi? Vous fasse grâce. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir cette grâce? Vous êtes prêt? Vous êtes prêt, hein? Que le Seigneur vous bénisse grandement.